Interview.
2 jours.
Hôpital de Die, jeudi 28 décembre 2017, une manifestation devant la sous-préfecture.
Une nouvelle manifestation encore, on était le 2 décembre, on était nombreux, il faisait aussi un froid de canard. Aujourd'hui, moi j'ai vraiment à vous remercier une nouvelle fois.
À l'heure où est diffusé ce programme sur votre radio rdwa.fr ou rdiwa 107.5 FM, presque tout le monde est au courant.
Vous savez que le collectif avait fait un recours au tribunal administratif de Grenoble, un recours qu'on avait posé le 3 décembre. Bon, je vais le dire tout de suite, hein, les nouvelles sont pas bonnes. La nouvelle est tombée. Alors, elles sont pas bonnes, et en même temps, ça n'empêche pas la lutte, ça n'empêche pas de continuer. Le juge du tribunal administratif de Grenoble n'a pas jugé notre requête recevable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat sur le fond, de savoir si on était légitime ou pas sur les questions de fond. C'est une déception, mais c'est pas, ça ne veut pas dire que nos arguments n'étaient pas bons. Il n'y aura pas de débat sur le fond, malheureusement. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre cette décision et puis tracer un peu des perspectives. Tout d'abord, depuis 30 ans, le collectif n'avait jamais porté de recours devant un tribunal. C'était un choix. C'est toujours la mobilisation des habitants, soutenue par les élus de tous bords, qui a permis de gagner. Le 24 novembre, lorsque l'ARS et le préfet ont fait une conférence de presse, de laquelle on a été expulsés, que nos élus, pour la seconde fois, sont allés seuls et sans l'appui de la population rencontrer la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous avons compris, le collectif, qu'aucun espace de dialogue ne serait mis en place. Et nous avions constaté qu'aucun espace de dialogue n'existait et que l'ensemble des décisions étaient prises dans l'obscurité la plus totale. Il était clair que M. Graal, directeur de l'ARS, l'Agence régionale de santé, profitait d'une fenêtre de tir favorable. Un gouvernement prompt à faire des économies sur le budget de l'hôpital public, 1,5 milliard d'économies votées au budget de la sécurité sociale. Un directeur de centre hospitalier, M. Jean-Pierre Bernard, à ses ordres, à qui nous avons remis le diplôme de meilleur saboteur de la Drôme depuis 30 ans, et pour cause, des élus locaux résignés, une députée toute nouvelle, tout à l'écoute de la technocratie et des arguments de l'ARS. Quelques jours plus tard, quelques édiles locaux, mais pas des moindres, faisaient un appel à ne pas manifester avec le collectif le 2 décembre. Seuls 5 élus en écharpe étaient présents ce jour-là. Constatant la résignation et le désengagement des élus, voire pour certains une soumission au chantage de l'ARS, fermeture contre nouvel hôpital. Le collectif a décidé, pour la première fois de son existence, de poser en urgence une requête auprès du tribunal administratif, requête déposée le 3 décembre. Tous les moyens légaux, les droits d'expression, les manifestations, la justice auront été utilisés. Nous avons demandé une aide financière à la ville de Die, à la communauté de communes du Diwa, pour porter ce recours, recours légal, qui n'est donc pas l'utilisation de la méthode forte dénoncée par certains. Pour le moment, cette demande est sans réponse. L'ordonnance du juge, si elle ne rentre pas sur le débat de fond, nous apprend tout de même quelques éléments. Alors sur le plan juridique, si vous voulez en savoir plus, vous voyez Maître Stahl qui doit être quelque part dans l'Assemblée. Mais moi ce que j'en ai conclu, c'est qu'une administration peut aujourd'hui décider de fermer des services sans prendre de décision administrative et donc sans que les citoyens puissent faire un recours pour excès de pouvoir ou contre cette décision. En effet, nous avions comme seul élément le communiqué de presse de l'ARS et donc pas de décision administrative. Comment est-il possible de fermer un service sans décision? Eh bien, le juge répond à cette question. La fermeture des services est la simple conséquence de l'arrivée à échéance des autorisations dont dispose l'établissement et de la décision de son directeur de ne pas solliciter le renouvellement. C'est pourquoi nous avons vraiment bien fait de lui remettre le diplôme de saboteur. On peut tirer quelques conclusions. 1. La loi HPST 2009, dite loi Bachelot, a donné quasiment tout pouvoir au directeur pour mener la politique qu'il veut, au directeur et aux ARS. Nous l'avions dénoncé en son temps comme une mesure antidémocratique. Avant cette loi, les centres hospitaliers avaient des conseils d'administration décisionnaires, avec des représentants élus, usagers, professionnels, avec un pouvoir de vote. Après cette loi sont parus les conseils de surveillance, avec un pouvoir consultatif et au nombre de membres très réduit. Mais consultatif ne veut pas dire impuissant. Les membres du conseil de surveillance peuvent solliciter le directeur, l'enjoindre de poser des demandes de renouvellement, s'opposer à certains choix. J'ai été membre moi-même du conseil de surveillance et j'avais demandé au directeur, M. Dobos, à l'époque, de faire les demandes de renouvellement. Au bout de 3 demandes, il les avait faites. Ce qui ressort des comptes rendus du conseil de surveillance que nous avons obtenus du fait qu'on ait demander des documents à l'ARS, c'est que dès le mois d'avril 2017, se dessinait la fermeture et qu'aucun membre du conseil de surveillance n'a exprimé d'objection à cette volonté. En octobre, le collectif informait les élus et la population que le directeur ne souhaitait pas faire de demande de renouvellement, qu'il en avait informé la commission médicale d'établissement. C'est un des membres de cette commission qui nous avait prévenu, ce n'est pas quelque chose qui a été rendu public. Ce point, la non-demande de renouvellement, n'a jamais été mise à l'ordre du jour du conseil de surveillance. Il a fallu que le collectif interpelle lui-même le conseil de surveillance, le 30 novembre, rappelez-vous, nous sommes allés les interpeller, pour que le directeur explique sa décision de ne pas faire les demandes de renouvellement auprès de ses membres. Trois d'entre eux ont pris la parole. Ils se sont exprimés non pas pour contester cette décision ou lui enjoindre de faire la demande, mais pour connaître le protocole de prise en charge des femmes enceintes après le 22 décembre et pour demander une réunion d'information pour le personnel. Ce même jour, M. Trémollet, le maire d'Audi, président du conseil de surveillance, et c'est à ce titre-là qu'il parle, à propos d'un courrier de l'ARS annonçant la fermeture et les propositions mises en place, trouve ce courrier positif pour le territoire d'Ivoire et le centre hospitalier d'Audi. Et je vous passe les félicitations pour l'action menée, la confiance réciproque, etc., du maire pour le départ de M. Bernard, promu directeur adjoint aux hospices civils de Lyon, promu après avoir fermé les services de maternité et de chirurgie. Dans cette histoire, chacun prend ses responsabilités, et le collectif, et les citoyens, et vous ici présents, n'avons pas à rougir de notre action.
Voici pour le dessous des cartes de comment ça s'est passé, donc pas très reluisant en effet. Et la suite ?
La suite. Le collectif se réunira pour savoir s'il fait recours de cette décision. Pour le principe, pouvoir contester un excès de pouvoir, qu'il y ait eu ou pas une décision administrative. Cette démarche ne changera pas le destin en cours, mais peut être utile à l'ensemble des collectifs de France. Une femme, je l'ai appris tout à l'heure, a déjà accouché au milieu des travaux. Les chambres ont été vidées, les artisans refont la peinture. L'ARS n'a pas attendu la décision qu'elle n'aurait fort probablement pas respectée. Des batailles sont à mener maintenant, sur le long terme, pour obtenir la réouverture de la maternité et de la chirurgie. Ces batailles seront menées avec vous et avec d'autres collectifs en France. La Saulce, Saint-Agrève, Oloron, Lannemezan, Valréas. Je tiens d'ailleurs à remercier ici tous les collectifs qui nous ont envoyé des messages tout au long de cette bataille. Sachez que nous ne sommes pas tout seuls et qu'une coordination existe. On va essayer de mener une bataille tous ensemble pour contrer cette décision et les décisions qui vont avoir lieu dans d'autres endroits, qui est à contre-courant total de ce que la société demande. À ce jour, nous demandons l'abrogation de la loi Bachelot, donc la fameuse loi Hôpital Patient Santé Territoire qui a supprimé la démocratie dans l'hôpital, le retour de la démocratie dans les décisions qui concernent notre santé, la fin de la tarification à l'acte qui marchandise la santé et la mise en place de dotations qui prennent en compte les besoins des populations avant toute chose. Excusez-moi, j'ai les doigts gelés. La fin du numerus clausus qui bloque l'entrée en études en médecine, de médecine et réduit l'offre de soins, augmente le renoncement aux soins et la perte de chance. La réalisation d'études épidémiologiques, médico-sociales, économiques, nous demandons des études sérieuses et transparentes pour analyser les conséquences d'une politique de santé dont le logiciel a 30 ans et qui vont à contre-courant de la société aujourd'hui. Retour à la nature, à la campagne, accouchement physiologique contre médicalisation à outrance, volonté de participer aux choix politiques, etc. Pour finir, je tiens à vous remercier tous de votre présence, à remercier les collectifs qui nous ont suivis et soutenus, à remercier tous ceux qui ont participé en apportant leur témoignage, leur présence lors de nos actions, les musiciens, les comédiens, les élus, peu nombreux mais présents, les citoyens. Jean-Louis n'est pas là, il a la crève. Jean-Louis derrière, qui tient la page Facebook, qui réalise les tracts et qui a fait 1200 photos d'enfants, d'enfants qui ne sont plus des enfants aujourd'hui, nés à 10, 1200 photos. Lucille Stahl pour le blog et le temps consacré au recours juridique. Jean-Pierre pour son énergie et la distribution des tracts, l'organisation. Le personnel hospitalier, qui malgré les pressions incessantes nous a communiqué des informations. La presse et tous les médias qui nous suivent. Vos messages, vos courriers, tout ce qui nous a permis de tenir, de garder l'énergie face à ce rouleau compresseur. Alors, c'est pas très joyeux, je suis désolé, mais pas simple. Il caille et puis... Donc merci à tous, bonne fin de fin d'année. Et alors, pour enchaîner, alors, je veux dire qu'on a été condamné aussi à verser 1000 euros à l'ARS. Donc, il y a du vin chaud. 1000 euros dépend, ouais. Il y a du vin chaud, il y a des, des autocollants à vendre. Il y a une caisse de solidarité pour ceux qui peuvent aider. Et on n'est pas sûr qu'on payera, mais en attendant, les actions vont continuer. Il y a de la clairette et du crément. On fait signe. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Eh bien, merci pour ces explications. Je suppose que les prochains rendez-vous du collectif seront annoncés sur votre page Facebook et sur votre radio RDIWA. Ah, mais je vois que quelqu'un d'autre veut reprendre la parole. Allez-y, on vous écoute.
Un des premiers slogans qu'on pourrait dire, c'est « moins d'éthique et plus de domestique, monsieur ». Merci beaucoup. Vous faites du très beau travail. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis donc Anne-Cécile Dubouzin de la Vergogne, comme l'a dit monsieur Deleuze-Denberg, présidente de l'élite supérieure des castes dominantes du Diwa, soit dit en passant le seul ESCDD qui mérite d'exister. Et j'ai été mandatée par madame la ministre des Solidarités, pardon, ça fait toujours rire, et de la Santé, pour entamer avec vous les réjouissances et célébrer la marche vers le progrès du Diwa, avec la mise en place de la stratégie santé. Car oui, la fermeture de la maternité et de la chirurgie est une excellente opportunité pour notre territoire. C'est le premier pas vers la révolution douce dans le Diwa, pour une plus juste répartition du manque de moyens. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse d'abord. Ne rêvez-vous pas d'un autre destin que de celui de changer les couches, donner le sein ou le biberon et j'en passe, enfin bref, d'être à la merci d'un être immature, d'un assisté. Hein ? Il était temps que la grossesse, cette violence faite aux femmes, cesse. Merci. Et oui, le 19 décembre dernier, nous fêtions, vous le savez sans doute, les 50 ans de l'adoption de la loi sur la contraception. Aujourd'hui, nous rendons celle-ci obligatoire. Désormais, un vaccin contre la grossesse sera administré dès l'âge de 6 ans aux fillettes dont les familles ont un quotient familial inférieur à 1 500 €. Les familles au quotient familial plus élevé pourront elles aussi en faire la demande. Quant aux irréductibles procréatrices qui se sentiraient vraiment appelées pour renouveler l'élite de notre territoire d'Iwa, je les rassure, nous avons pensé à des alternatives qui, de surcroît, vont permettre de booster la croissance. Je tiens tout d'abord à rappeler, pour calmer les esprits échauffés du collectif de défense de l'hôpital, une donnée que jusque-là, il s'était bien gardé de partager. La maternité de Valence n'est qu'à 12 minutes de dix en jet Mustang 6000, ce qui est bien en dessous des 17 minutes qui suffisent à garantir la sécurité des parturientes et de leur bébé. Bon, on sait ce que l'on veut qu'on sache. Enfin, ensuite, le gouvernement a mis en place, en partenariat avec Google, un site internet vous permettant de programmer votre césarienne et de choisir parmi les meilleurs praticiens disponibles à la date qui vous convient. L'accouchement est un acte médical trop sérieux pour le laisser à des sages-femmes. Pour l'ablation de votre fœtus, vous pourrez désormais vous offrir les meilleurs spécialistes. Et pour 3 césariennes effectuées, la 4e sera gratuite. Et profitez pleinement de ces moments en réservant une chambre sur Airbnb. Et pour les malheureuses qui n'auraient pas les moyens, ou les intégristes des voix basses ou physiologiques, nous avons la chance d'habiter un territoire rural abritant encore quelques spécialistes du vélage et de l'agnolage. Je serai concise pour le reste et ne citerai que brièvement quelques autres initiatives. Saluons dès à présent la création de l'entreprise Uber Ambulance et de la plateforme Blablascar pour des transports médicaux dans la joie et la bonne humeur. La ministre souhaite aussi encourager les diagnostics gratuits sur Doctissimo, qui est désormais habilité à délivrer des diplômes dans différentes spécialités. Excusez-moi, je suis un peu perdue dans mes feuilles. C'est pas grave, écoutez.
Ça va venir, ça va venir. Ils sont vraiment patients, hein.
Alors, écoutez, j'ai perdu la fin de mon discours, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vive le Diwa en marche. Hein. Merci aux élus, merci à l'ARS, merci à la ministre. Le progrès, c'est l'avenir.
Eh bien, c'est sur ces mots pleins d'optimisme pour les classes dirigeantes qu'on se quitte. À bientôt sur les ondes et dans la rue.
Des places au vin chaud aussi.
Interview. Interview. Okay, the bird.
L'interview du jour.